e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp.
Une agence en pleine transition éthique.
Tous les 3 mois, on explore une nouvelle initiative éthique que l'on veut mettre en place dans l'agence. L'occasion de sensibiliser et de se former pour accélérer notre transition éthique. Et quoi de mieux pour se former que de faire intervenir des experts et expertes passionnés par ces différents sujets? Vous aussi, vous voulez rendre vos pratiques plus éthiques? Alors plongez avec nous dans l'enquête. On vous embarque dans nos rencontres et nos échanges à travers une série de podcasts qui vous accompagnent au cœur de nos enjeux éthiques. De quoi vous inspirer avec des solutions concrètes pour votre activité professionnelle.
Pour ce deuxième épisode, nous abordons le cadre légal autour du numérique éco-responsable. Comme pour notre première enquête sur l'accessibilité numérique, on vous donne les clés pour comprendre ce qu'il se passe au niveau des lois et des normes encadrant le numérique. L'idée étant de mettre à plat les lois, les référentiels, les guides, les initiatives, les échéances et les obligations pour que vous preniez conscience dès à présent des implications pour votre activité numérique. Nous avons construit cet épisode sous forme de discussion avec Richard Hanna, chargé de mission numérique éco-responsable à la DINUM et co-animateur technologie, et Muriel Timsit, consultante indépendante en sobriété et responsabilité numérique. Cette discussion a été enrichie de quelques apartés par Agnès Crépet, Head of Software Longevity and IT pour Fairphone, Christophe Clouzeau, expert Green UX et éco-conception numérique chez Temesis, et enfin Margot Chailloux, cofondatrice et CEO de Improve d'Impact. Sans plus attendre, on vous laisse plonger dans notre discussion sur le cadre légal autour du numérique éco-responsable.
Je vous propose qu'on rentre dans l'histoire et les évolutions du cadre légal en France autour du numérique éco-responsable. Donc la question déjà, c'est de savoir est-ce qu'il existe un cadre législatif et si oui, est-ce qu'il y a eu des évolutions et puis surtout, est-ce que vous pouvez nous parler des principales lois qui existent actuellement en France autour du numérique éco-responsable ?
Alors, déjà, tout a commencé sur les questions d'obsolescence programmée. Donc, on a une loi de 2015 qui punit au pénal. On peut avoir des sanctions vis-à-vis d'éditeurs, de constructeurs. On justifie qu'il y a eu une volonté d'obsolescence des équipements induite par le logiciel, par les systèmes d'exploitation ou par le firmware. Enfin, voilà, notamment dans les imprimantes. Alors, il y a l'exemple d'Epson, il y a l'exemple d'Apple qui ont été sanctionnés, qui ont été, voilà, ils ont eu des amendes de quelques millions, c'est pas grand-chose pour eux. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ce premier cadre législatif. Puis en 2020, vous avez la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire qui introduit pas mal de choses globalement sur la réduction notamment des déchets, allonger la durée de vie des produits, mais sur la partie numérique notamment, l'indice de réparabilité qui a été introduit à ce moment-là. Donc c'est un indice, c'est un affichage environnemental que vous avez à l'achat, c'est-à-dire voilà, vous avez une bande de couleurs allant du vert au rouge et avec un score allant de 0 à 10 qui est valable donc depuis le 1er janvier 2021, enfin en tout cas qui est affiché dans vos boutiques ou en ligne sur les produits tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les lave-linges il me semble, et puis les tondeuses à gazon électrique si ça vous intéresse, il y a aussi
voilà. Pour ceux qui ont un jardin.
Voilà, exactement. Et puis cet indice de réparabilité, voilà, vise à indiquer au consommateur quel est, suivant plusieurs critères, est-ce qu'il y a une documentation, est-ce que l'équipement peut être facilement démonté pour être réparé, est-ce qu'il y a quelle est la disponibilité des pièces détachées, etc. Alors, c'est un indice qui est calculé par le constructeur lui-même, donc il n'y a pas de tiers de confiance, en tout cas pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un premier pas et c'est, voilà, en tout cas, la France est pionnière sur ce sujet et l'indice de réparabilité est scruté à l'échelle européenne, même à l'échelle internationale. Donc, ça va être remplacé par l'indice de durabilité en 2024. Voilà, après, bon, c'est vrai que c'est une action qui est très peu engageante pour les constructeurs, mais en tout cas, ça va peut-être modifier les comportements de consommation. Enfin, au début, je me disais, mais ça sert à quoi cet indice de réparabilité ? C'est encore une fois la responsabilité est donnée aux consommateurs, mais en fait, ce qu'on constate, c'est quand même les constructeurs. Alors, c'est un affichage environnemental, mais justement, pour prendre cette image de l'affichage, ben, ça affiche aussi les constructeurs, en fait. Quand ils ont des notes de 2, 3, notamment Apple, ben, là, on voit clairement des efforts de la part de constructeurs, notamment Apple, sur la réparabilité, sur la mise à disposition de produits de rechange, de composants de rechange, etc. Donc, ça évolue petit à petit, mais sûrement. Il y a l'achat pour la commande publique, donc les équipements numériques achetés par les services de l'État. Il y a ces fameux 20% d'achats reconditionnés, puisque c'est vrai que c'est un des articles de la loi AGEC qui pose un peu les grandes bases de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Voilà pour cette loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Plus récemment, donc... En novembre 2021, on a la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui a été promulguée, qui est venue du Sénat. Alors, il y a pas mal d'articles, on ne pourra peut-être pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il y a à la fois la sensibilisation des étudiants, des ingénieurs sur l'impact du numérique, sur l'éco-conception, etc. Et puis, il y a des sujets sur la mesure, sur la création d'un observatoire du numérique en France, sur le renforcement de la prise en compte de l'indice de réparabilité, de l'indice de durabilité. Et on a aussi l'établissement d'un référentiel d'éco-conception de services numériques. Donc, il s'agit juste de l'établissement et non pas la mise en œuvre. Hein. Il n'y a pas de contrainte pour l'instant, c'est que de l'incitatif. Donc, voilà.
Par rapport à la loi AGEC, il y a aussi... une disposition pour les fournisseurs d'accès Internet qui doivent informer leurs abonnés de la quantité de données consommées et de l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Et pour la loi REN, il y a aussi une deuxième partie de la loi, donc une disposition complémentaire qui confère à l'ARCEP le pouvoir de collecter les données relatives à l'impact environnemental du numérique auprès des acteurs du numérique. Et encore une dernière chose, les collectivités locales vont être impactées par la loi REN, car celles de plus de 50 000 habitants vont avoir l'obligation d'avoir défini une stratégie numérique responsable au plus tard le 1er janvier 2025. Donc c'est l'article 35 qui est en attente de son décret d'application.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on a dans les articles de loi, on a les principaux objectifs, on va dire le sens que le législateur veut donner à ces lois. Après, il y a les décrets d'application qui décrivent justement comment mettre en œuvre et contrôler ces articles point par point, en fait. Sur l'indice de réparabilité, par exemple, il y a eu des décrets pour dire comment le mettre en œuvre, comment calculer, etc. Enfin, ce n'était pas dans l'article de loi qu'il y avait le mode de calcul.
Je voulais rajouter quelque chose par rapport au cadre légal. Donc, il y a eu la loi 3DS donc, qui est sortie en février. Donc, c'est la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification. Et donc cette loi, elle va modifier le code de la propriété des personnes publiques pour faciliter le don. Ce n'est pas encore effectif, mais elle va fixer un décret, par décret un prix solidaire qui va autoriser la revente de biens mobiliers publics donnés par l'État, dont les dons informatiques qui représentent 40% des dons de l'État. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante qui concerne donc la fin d'usage et donc c'est... Ça va faciliter l'allongement de la durée de vie des équipements.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, en fait, l'État, ou en tout cas les administrations publiques, sur la question du don de ces équipements ou des équipements numériques, mais au-delà des équipements numériques aussi, tout, ça peut être du mobilier, etc. C'était assez contraignant pour le don ou la revente en sortie des institutions. Donc, cette loi permet davantage de lever certaines contraintes pour vendre notamment à des associations à but d'intérêt général.
Ouais, c'est top ça. Enfin, sur ça, tu rentres vraiment dans une économie plus solidaire.
Oui, et même une économie circulaire.
Oui.
Pour enrichir notre discussion au niveau du cadre législatif, on vous propose une aparté avec Agnès, spécialiste de l'obsolescence programmée chez Fairphone. Elle fait le point sur les lois en place à ce sujet. Elle revient aussi sur l'indice de réparabilité et de durabilité auquel Fairphone participe.
Dans la loi de transition énergétique de 2015, le délit d'obsolescence programmée a été introduit. Et donc maintenant, il faut le savoir, hein, hop, l'association Halte à l'obsolescence programmée le revendique toujours, et c'est très bien qu'il le répète encore et encore. L'obsolescence programmée, c'est maintenant clairement un acte qui peut être réprimé à travers des articles du Code de la consommation. Donc ça, c'est bien. Et encore mieux, il y a une loi de novembre 2021, la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui est venue rendre plus facilement applicable ce délit. Donc aujourd'hui, grâce à cette loi de la transition énergétique en 2015 et la loi de 2021, on arrive à une définition actuelle au niveau législatif qui est relativement simple et plus facilement applicable. Je peux même vous la donner, hein. L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le metteur sur le marché d'un produit, donc Fairphone par exemple, vise à en réduire délibérément la durée de vie. Et ce délit est puni d'une amende de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement à 5% du chiffre d'affaires moyen annuel. Donc voilà, on est sur un délit qui est clair, qui est mentionné, on est sur un axe législatif novembre 2021 qui va appuyer le cadre d'application, donc c'est bien. Après, comment elle est appliquée cette loi, c'est pas forcément simple. Il y a peu de cas d'application vraiment de cette loi parce qu'il faut se saisir d'un cas. Il y a Epson qui est en cours d'instruction grâce à HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Il y a aussi une plainte 2017 aussi, si je ne me trompe pas, qui a été faite par HOP sur les téléphones iPhone 6, 6S, etc. Du fait que la mise à jour d'iOS était problématique et poussait au délit d'obsolescence. Donc voilà, la loi c'est bien. Après, c'est vrai qu'il faut avouer que le cadre d'application, même s'il est simplifié, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui s'en saisissent. Et c'est pour ça que je tiens encore à souligner le travail de HOP là-dessus. Mais je pense vraiment que dans tous les cas, il faut passer par la loi et ensuite, ça peut prendre du temps, mais ça marche. Tu parlais de l'indice de réparabilité, de l'indice de durabilité. Donc ça, c'est encore d'autres dispositions légales qui sont arrivées récemment. La loi sur l'économie circulaire de février 2020 a justement été à la base de cet indice de durabilité qui a été obligatoire depuis janvier 2021 pour certains appareils électriques et électroniques. Et surtout, encore plus intéressant, un indice de durabilité qui va arriver en 2024. Cet indice, va être beaucoup plus large que l'indice de réparabilité et comprendra des choses, à mon avis, beaucoup plus intéressantes pour voir si le produit va pouvoir être gardé 5 ou 6 ans ou 7 ans. Des critères tels que la fiabilité, la robustesse du produit, sa fiabilité, etc. Mais je ne dénigre pas l'indice de réparabilité. Il a ses limites. Encore une fois, HOP a été assez explicite sur les limites de cet indice-là. Ils ont publié une tribune récemment là-dessus. Mais je pense que c'est une première bonne démarche pour arriver à faire en sorte que les gens s'intéressent à ça. Aujourd'hui, vous allez chez Darty, à la FNAC, peu importe. Enfin, il y en a qui le font plus ou moins bien que d'autres, d'ailleurs. Mais peu importe, maintenant, c'est obligatoire pour les revendeurs d'avoir cet indice de réparabilité clairement affiché. Donc, vous allez acheter votre nouveau téléphone, vous êtes fan du fait que votre téléphone puisse se plier, mais vous ne regardez pas que ça. Potentiellement, vous allez regarder aussi cet indice de réparabilité qui va vous donner un indice clair sur le fait de savoir si votre téléphone va être réparable ou pas. Et ça, c'est bien. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour aider le consommateur à vraiment guider son achat. On pourrait aller beaucoup plus loin. Enfin, je veux dire, Fairphone fait partie de campagnes de sensibilisation, de campagnes de lobbying pour faire en sorte que la garantie téléphone passe à 5 ans. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent aller encore plus loin. Mais je tiens à souligner quand même ces premiers axes.
Justement, on lui a demandé de nous expliquer qui étaient les acteurs et actrices derrière ces réglementations et comment Fairphone s'investit à ce sujet.
Alors, on fait partie, on va dire, d'une typologie d'acteurs qui essayent de pousser les choses, les avant-gardistes, quoi, voilà, il n'y a pas que nous, hein, y a des gens comme Common, une coopérative d'activité française qui essaye d'œuvrer pour un électronique plus responsable et plus durable. C'est des gens qui proposent pas que des Fairphone, mais aussi des téléphones de marque CrossCall. Dans le monde associatif, il y a, moi j'aime bien citer les Amis de la Terre, HOP. Donc, au niveau européen, il y a le Right to Repair Movement, donc un mouvement qui justement tend à pousser les gens, à pousser les consommateurs, pousser les fabricants d'appareils électroniques à faire en sorte que les appareils soient plus réparables et non pas que recyclables. Et puis après, il y a l'axe législatif. Donc, ces gens la poussent, grosso modo, et après, les gouvernements s'emparent ou pas des choses.
Vu que la loi a ses limites, on s'est demandé si elle avait autant d'impact que ça sur les entreprises. Agnès nous donne son point de vue.
Moi, je pense que la loi, elle a un impact, vraiment. Et typiquement, les référentiels, enfin aujourd'hui, si je parle des smartphones, eh ben, tu as la catégorie des smartphones, je caricature un peu, hein, mais tu as la catégorie des smartphones réparables et la catégorie des smartphones non réparables, quoi. En gros, hein. Si tu as une mauvaise note à l'indice de réparabilité, eh ben, grosso modo, voilà, c'est clair pour les consommateurs de s'apercevoir que ton téléphone ne va pas durer, quoi. Donc non, moi, je dirais plutôt que la loi a quand même un impact. Elle a ses limites. Ceux qui sont en charge des applications de loi font face à, j'imagine, beaucoup de compromis. Typiquement, l'indice de réparabilité, c'est ce qui s'est passé. En 2021, et ça a été encore le cas en 2022, cet indice de réparabilité, c'est bien souvent de l'autonotation. Donc, c'est le fabricant de téléphone qui doit se donner une propre note. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, ah ben, dis donc, ça a ses limites, hein, parce que si personne contrôle, si tu te donnes ta propre note, tu vas vouloir faire en sorte de te donner une bonne note, quoi, si je caricature un peu la chose. Mais moi, je trouve que c'est quand même louable. C'est ça que je veux vraiment faire passer comme message aujourd'hui. Mais je trouve que quand même, sans la loi, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Au niveau notamment des fabricants de téléphones, si vous n'obligez pas un fabricant à respecter la loi, je ne suis pas sûre que du jour au lendemain, grâce à Fairphone, tout le monde va changer. Je suis très fan de ce que fait Fairphone. C'est très bien que ça existe. Ça montre qu'un numérique responsable puisse exister. Donc c'est bien de faire du lobbying, c'est bien de montrer l'exemple et tout ça, mais l'axe législatif est quand même, à mon avis, très 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 important.
Et alors, vu qu'on est en train de parler un peu d'indices et de référentiels, est-ce que justement vous pouvez nous parler des principaux référentiels qui existent pour un numérique éco-responsable, enfin, s'il y a des normes ou des guides aussi, n'hésitez pas à en parler.
Ben, des normes, il y en a beaucoup. Ben, je vais parler plutôt ce que nous avons produit dans la mission interministérielle numérique éco-responsable. Voilà, c'est l'occasion de faire la promotion de tout ce qu'on a publié en un an et demi, avec beaucoup d'acteurs, de contributeurs que nous remercions encore une fois, hein, dans ce podcast, notamment l'Institut du numérique responsable avec qui nous travaillons sur tous nos sujets, mais aussi Eco-Info du CNRS, avec pas mal d'acteurs académiques, institutionnels, les ministères, mais aussi des acteurs privés, des acteurs associatifs, comme Halte à l'obsolescence programmée notamment. L'impact environnemental du numérique, c'est surtout dû à la fabrication des équipements. Donc, qui dit fabrication dit achat. Donc, on a voulu d'abord travailler sur les questions de l'achat, notamment d'équipements numériques. Donc, on a sorti le guide des achats numériques responsables. Ensuite, on a travaillé sur le référentiel d'éco-conception de services numériques. Pareil, qu'on a produit avec l'ADEME, l'Institut du numérique responsable, le ministère de la Transition écologique et puis tous les acteurs, ministères, etc., qui ont contribué avec nous à établir ce référentiel. Et puis plus récemment, le guide de bonnes pratiques numériques responsables qui englobe toutes les bonnes actions, toutes les bonnes pratiques à l'échelle d'une organisation, hein, on n'est pas sur l'échelle individuelle, à l'échelle de l'organisation pour avoir le maximum d'impact sur tous les sujets liés au numérique, que ce soit l'achat, les usages, la stratégie, la gouvernance sur ce sujet-là, la conception de services numériques, le centre de données, les usages cloud, la fin de vie, le réemploi, la gestion des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, etc.
On vous propose de faire une deuxième aparté avec Christophe cette fois-ci. Il fait le point sur les référentiels qui existent pour l'éco-conception numérique.
Alors ça tombe bien, il y en a plein en France. Depuis l'année dernière, il y a eu beaucoup d'initiatives, même si ça travaille quand même depuis un peu plus longtemps. La première que je peux vous citer, c'est d'abord l'utilisation d'un référentiel qui s'appelle le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques auquel j'ai participé. Et ça vient compléter les référentiels qui existaient déjà, référentiels d'État. Donc typiquement, il existe le RG2A, donc référentiel général sur l'accessibilité, le RGPD, qui est un règlement général sur la protection des données privées. Vous avez le RGI sur l'interopérabilité. Vous avez le RGS sur la sécurité. Il en manquait un sur l'éco-conception. Maintenant, c'est le RGESN. Pour l'instant, ce n'est pas un référentiel contraignant, mais ça donne déjà des perspectives de possibilités de législation. Et puis ensuite, vous avez plein de guides de bonnes pratiques. Vous avez celui de la DINUM. La DINUM, c'est un peu l'équivalent de de la DSI, donc le service numérique de l'État. Donc la DINUM qui a sorti un guide de bonnes pratiques là en février 2022, donc c'est tout jeune. Vous avez aussi plein de bonnes pratiques issues du collectif Green IT, qui s'appelle les 115 bonnes pratiques. Donc ça, c'est pour peut-être les plus développeurs d'entre nous qui nous écoutent. Vous avez aussi les guides de référence de conception de services numériques, donc le GR491 qui est émis par l'INR, l'INR étant une association think tank qui réunit tout un tas de contributeurs, donc aussi bien grandes sociétés, TPE, PME, associations, collectivités. Vous avez des règles liées au, enfin plus dédiées pardon, aux professionnels du web. Ce sont des règles de qualité web, donc qui s'appellent OQUAST, comme Open Quality Standard. Et dedans, vous retrouverez donc des volets UX, SEO, performance, etc. Mais aussi des volets liés à l'impact du numérique.
Est-ce qu'il existe aussi d'autres accompagnements qui sont mis en place par l'État pour accompagner les entreprises vers un numérique plus éco-responsable ?
Je pense que Richard a évoqué donc, tout ce qui est produit par la mission interministérielle numérique éco-responsable. À part ça, il y a des appels à manifestation d'intérêt, par exemple sur le verdissement du numérique. Il y a l'ADEME aussi, je crois, qui a lancé un programme CEE, donc les certificats d'économie d'énergie, sur la sobriété numérique, pour accompagner cette démarche.
L'ADEME reçoit quand même aussi des candidatures spontanées, entre guillemets, en dehors des cadres généraux ou les appels à financement de type Perfecto ou autre. Donc je pense qu'il y a quand même des subventions, des aides à aller chercher pour les entreprises sur ce sujet.
Je pense qu'on a aussi vu que tout le monde utilise le numérique, donc tout le monde est concerné. Et d'ailleurs, comme on parlait de tout ce qui était loi, référentiel, etc., vous nous avez aussi dit qu'il n'y avait pas forcément d'obligation, mais il y a des échéances à venir. Donc est-ce que les entreprises peuvent s'attendre à rencontrer, comme pour les autres référentiels, des obligations de mise en œuvre ?
Je ne crois pas à des contraintes venant de l'aspect législatif. Par contre, les contraintes viendront des consommateurs. Donc, les entreprises devront évoluer, hein, c'est sûr. Et d'autant plus pour les entreprises qui travaillent avec le service public. Ben, le service public a davantage de contraintes que les autres. Même si l'éco-conception de services numériques n'est pas obligatoire. Donc, on a parlé des choses obligatoires. Ça sera l'indice de réparabilité. Ça sera l'achat des 20% d'achats reconditionnés. Donc, ça va un peu bouleverser quand même le marché à ce niveau. Et si les administrations se décident moi je veux éco-concevoir mes services numériques, mes logiciels, etc., ben, en fait, ça va faire aussi évoluer ce marché de la conception. Donc dès aujourd'hui, il faut effectivement se renseigner et se former sur ces sujets-là. Et même s'il n'y a pas de contraintes, on va dire, légales, ben, les contraintes viendront du marché.
Finalement, ces contraintes vont un peu de pair avec celles liées à l'accessibilité où on a des obligations légales à venir, dans le sens où si on optimise ces plateformes pour les rendre plus accessibles, plus inclusives, autant les rendre aussi moins gourmandes en énergie, éco-conçues et autres, non ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours étonnée de voir que dans les grands groupes, on distingue en fait le service numérique responsable du service accessibilité, parce que pour moi, c'est un tout. Et tout ça, ça fait partie de la responsabilité numérique. Moi, je préfère en fait parler plutôt de responsabilité numérique plutôt que de numérique responsable, parce que dans numérique responsable, en fait, on place le numérique en tant qu'acteur, on le personnifie, alors qu'en fait, c'est juste un outil. Tandis que dans le concept de responsabilité, il y a cette notion d'éthique, de prise en compte de l'être humain, des conséquences de ses actes sur la nature et sur autrui. Donc en fait, c'est la responsabilité de l'humain dans ses usages numériques qui doit être questionnée.
Comme on a parlé d'accessibilité et de protection des données, on a bien vu que le fait d'avoir un référentiel comme le RGAA ou le RGPD, ça induit des obligations pour les entreprises. Est-ce que, pareil, avec la création du référentiel sur l'éco-conception numérique, les entreprises vont avoir des obligations auxquelles répondre ?
Certainement, dans les lois... En fait, il y a ce qu'on appelle la soft law et la hard law. La soft law sont des règles qui existent, mais qui ne sont pas contraignantes, il n'y a pas de sanctions. C'est le cas, par exemple, pour les normes, les labels, les chartes, les codes de conduite ou certains textes de loi. mais leur application n'est pas contrôlée ni sanctionnée, et il y a beaucoup de règles de ce type en matière de droit environnemental. Mais là, vu le contexte, c'est en train de se durcir. Donc ça va forcément devenir obligatoire, parce que ce genre de démarche, en fait, ce sont les prémices d'une réglementation officielle.
Alors ça nous permet aussi de transitionner sur la deuxième partie qui fait un peu l'état des lieux du cas de la France sur l'éco-responsabilité du numérique. Enfin, on se rend compte qu'au fur et à mesure, les lois sont en train d'arriver, le contexte est en train de se durcir. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez du degré d'investissement du gouvernement français? Est-ce qu'il prend assez d'initiatives et où est-ce qu'on en est en fait?
Vu de l'extérieur, donc le gouvernement a l'air assez impliqué sur le sujet. Il a lancé une initiative Service public éco-responsable ainsi qu'une feuille de route gouvernementale numérique et environnement. D'ailleurs, la mission interministérielle numérique éco-responsable s'inscrit dans ce cadre. Il y a aussi la démarche Bercy Vert du ministère de l'économie, de la finance et de la relance. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'actions. Je trouve que le gouvernement est assez investi. Après, au niveau de la loi REN, tout n'a pas été pris en compte. Et surtout, ce n'est pas contraignant.
La loi REN vient du Sénat, déjà. C'était pour dire aussi, faut pas tout mettre sur le compte du gouvernement, en fait. C'est aussi, ça vient de la pression à la fois de l'administration. Hein. C'est pas forcément le gouvernement qui a proposé tel ou tel... Parfois, c'est des agents publics, l'administration qui a poussé des sujets. La loi REN, comme je l'ai dit, ça vient de sénateurs. Hein. Et puis, au niveau de l'État, il y a une démarche service public éco-responsable qui a été lancée effectivement par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, en février 2020, sur la réduction de l'empreinte environnementale des services publics sur tous les sujets, hein, mobilité, alimentation, mais aussi sur la partie numérique.
Mais qu'est-ce qui empêcherait de passer à la vitesse supérieure finalement? Parce qu'on sait que l'impact du numérique est assez considérable et n'est pas assez pris en compte. On parle souvent l'impact du transport, de l'agriculture ou autre. Et qu'est-ce qui empêche le gouvernement français de faire plus? Un manque de sensibilisation ou un manque d'intérêt du grand public et des citoyens
Non, pour moi, j'ai quand même l'impression que... Enfin, faut pas résumer les impacts environnementaux de nos activités au seul numérique. Et j'ai l'impression, ou je sais pas, est-ce que je suis dans une bulle, on parle souvent que de ça, même si c'est mon métier, du coup. Non, pour moi, c'est quand même assez pris en compte, hein, notamment en France, parce que dans d'autres pays, alors là, il n'y a même pas de sujet, hein, le numérique, c'est forcément bon. Alors qu'en France, on se pose des questions, donc c'est déjà une bonne chose. Et là, je regardais le programme des candidats. Pour certains candidats, c'est même pas la peine de regarder, il n'y aura rien. Mais pour ceux qui sont plutôt à gauche et vert, écolo, etc. Et voilà, il y a des sujets sur accélérer sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique.
J'en profite pour passer à la troisième partie du podcast qui compare aussi un peu le cas de la France à l'échelle européenne et internationale. Donc, si vous deviez comparer le cas français par rapport à l'impact de la pollution numérique, où est-ce qu'on en est en fait par rapport au reste du monde ?
Ça, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment d'études comparatives sur les pays. Il n'y a pas de classement en fait sur la pollution numérique, enfin pas à ma connaissance. La France, elle a entre guillemets la chance d'avoir un mix énergétique peu carboné. Donc au niveau de la consommation énergétique, l'impact du numérique, il est peut-être moins important qu'en Allemagne où il y a du charbon.
Moi, j'ai une vision plutôt capitalo-centrée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comparer des pays riches vis-à-vis des pays pauvres. Donc l'usage du numérique en France se classe dans la catégorie pays riches où en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on utilise beaucoup beaucoup de numérique et parfois on a une surconsommation de numérique, on a du gaspillage numérique. Et je parle à la fois des équipements mais aussi des usages. Après, effectivement, comme le disait Muriel, en dehors de la phase de fabrication, sur la phase d'usage, effectivement, on a la chance, entre guillemets, en France, d'avoir de l'énergie bas carbone, donc qui permet de réduire les impacts liés à l'usage. Et c'est pourquoi, notamment, les centres de données aiment bien s'installer dans des pays où l'énergie est bas carbone, hein, donc en France et aussi dans les pays scandinaves. Ils seront moins enclins à s'installer en Allemagne ou en Pologne. même si la Magne, elle vise quand même à avoir une énergie 100% renouvelable d'ici quelques années. Mais ça, c'est attention, c'est que sur la phase d'usage. Donc là, on élimine, 60 à 90% des impacts environnementaux liés à la fabrication des équipements. Donc après, sur le fait qu'on a pas mal d'articles de loi liés à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France, déjà permet de se dire, cocorico, on est un peu devant tout le monde. Comme je le disais, l'indice de réparabilité est scruté à la fois à l'échelle européenne comme aux États-Unis ou à l'international. Et puis, sur la question des déchets, on en a très peu parlé. Beaucoup de déchets d'équipements électroniques de par le monde, en tout cas des pays occidentaux, partaient jusqu'à récemment beaucoup en Asie, en Chine, etc., pour être recyclés ou en tout cas traités. Voilà. Donc imaginez, il y a du transport, mais il y a aussi des pollutions liées au traitement. Et aussi toute une partie qui partait dans des filières illégales, donc traitées par de la mafia, donc ça avec des gains énormes pour les milices, les mafias qui traitent les déchets électroniques. On parle de milliards de dollars de bénéfices. Ça arrive dans des décharges à ciel ouvert, notamment en Afrique, au Ghana, etc. Et donc pour revenir à la France, on considère que environ 60% des déchets d'équipements électriques et électroniques sont plus ou moins bien traités en France. Donc voilà, il y a toujours une petite partie où on ne sait pas où est-ce que ça devient. Enfin, soit ça part dans des décharges illégales en France même, soit effectivement il y a des brokers, c'est-à-dire des entreprises très peu scrupuleuses ou en tout cas dirigées par des mafias qui reprennent les équipements pour retirer les matières précieuses, l'or, l'argent, etc., le cuivre de plus en plus. Et puis le reste, c'est envoyé en Afrique ou ailleurs, dans les Balkans, ou j'en sais rien, voilà. Donc sur ces sujets-là, on va dire en France, même si on ne peut pas dire que tout est exemplaire, mais on a un petit peu d'avance par rapport à nos voisins européens ou même à d'autres pays occidentaux et riches.
Il y a des solutions pour ça ?
Déjà, la solution, c'est de faire appel à un éco-organisme qui va pouvoir organiser la collecte et le traitement des déchets, donc dans de bonnes conditions.
En France, en fait, on a deux éco-organismes collecteurs des déchets, que sont Écosystème et Écologique. Sans doute, vous connaissez, pour les ampoules notamment, c'est le sujet le plus connu, le recyclage des ampoules. Mais il faut savoir que aussi l'électroménager, les frigos, mais aussi nos ordinateurs, nos portables peuvent être traités. Enfin, lorsqu'on ne peut plus les réemployer, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus fonctionnels, c'est des déchets, ça ne fonctionne plus. Ça peut être traité par ces éco-organismes pour collecter en tout cas ce qui peut être valorisé. Et malheureusement, il n'y a pas de miracle. À la fin, il y a un enfouissement dans les sols. Personne n'est au courant de ça, mais au final, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets ? On les met sous terre, on les cache, on les cache sous le tapis, mais c'est réglementé. En tout cas, on essaie de bien le faire en France. On ne va pas les envoyer en Afrique, en tout cas, j'espère que ce n'est pas envoyé dans d'autres pays. Mais ça, je parle vraiment de la situation française.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui se démarquent comme des particulièrement bons élèves en la matière, ou on est un peu tous à gérer comme on peut ?
Alors en fait, pour tout ce qui concerne les D3E, il y a une directive européenne. Les autres pays européens sont soumis à la même réglementation que nous pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Après, je ne sais pas exactement comment ça s'organise dans ces autres pays. Actuellement, je sais qu'il y a des associations. Donc là, moi, je fais partie d'un groupe de travail. On est en train d'essayer d'identifier donc, tous les acteurs internationaux du numérique responsable avec l'AGIT, l'Alliance Green IT. Et je pourrais peut-être vous répondre à l'issue de ce travail. Mais...
Nous vous proposons une petite aparté avec Christophe. Nous lui avons demandé son avis sur la position de la France en termes de sobriété numérique par rapport au reste du monde.
Alors moi, je trouve que ce n'était pas pour être chauvin, mais en France, on est pour l'instant leader. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dépassé. Mais sur ce sujet-là, on a clairement une longueur d'avance, à la fois sur le sujet éco-conception et sur le sujet numérique responsable. Donc en termes de sobriété numérique, on a une longueur d'avance. Et on est quand même, au sein de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable. Et pour le coup, on est en train de faire des petits avec l'INR, avec des démarches qui arrivent en Suisse, en Belgique, un petit peu en Allemagne, le Québec. Vous avez aussi des groupuscules qui commencent à s'intéresser à ce sujet, donc plutôt anglophones. Donc là, c'est côté USA, Canada. Mais pour l'instant, le haut du panier reste quand même drivé par la partie franco-française, donc Cocorico.
Une dernière aparté avec Margot, cofondatrice d'Improve Impact. Elle audite les entreprises sur l'empreinte carbone de leurs services numériques. Nous lui avons donc demandé où en était réellement la France sur le terrain. Parce qu'on est peut-être pionnier niveau loi et référentiel, mais qu'en est-il vraiment niveau application ?
Alors, la France, au niveau légal, est plutôt en avance, mais ça reste très récent, puisque la loi RIN, qui vise à réduire l'empreinte du numérique en France, a été adoptée en novembre 2021. Donc aujourd'hui, les entreprises, pour la plupart, ne sont pas conscientes de la pollution numérique. Alors après, il y a deux types d'entreprises. Les entreprises qui utilisent le numérique au quotidien, parce que le numérique est maintenant dans toutes les entreprises, donc celles-là, elles n'ont aucune conscience de l'impact du numérique. Et après, on a les agences web, les agences de communication, les ESN, ceux qui font réellement tous ces outils-là, qui ont encore une grosse méconnaissance. Alors après, dans la loi, il est spécifié que de la formation doit être apportée à ces futurs professionnels. Mais pour ceux qui sont en activité aujourd'hui, on est encore sur une phase de sensibilisation et de prise de conscience sur ces sujets-là. Donc les entreprises, à mon sens, sont plutôt en retard. Mais après, je pense que toutes les entreprises dans le monde en sont à peu près au même stade.
Cette quatrième partie est par rapport à la coopération entre les pays dans un contexte européen et international. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'il existe une coalition entre les pays pour faire face aux enjeux environnementaux posés par la digitalisation de notre société ?
Que ce soit au niveau européen ou international.
Au niveau européen, oui, il y a des actions en cours, effectivement. Il y a des différents groupes de travail, notamment à la Commission européenne, mais aussi d'autres acteurs, notamment un groupe de travail des régulateurs télécoms, notamment sur l'empreinte environnementale du numérique, le BEREC, par exemple, qui a publié récemment un rapport sur l'empreinte environnementale du numérique et puis des actions possibles. Ben, on pousse aussi à la DINUM, on pousse nos sujets, puisqu'en fait, à terme, on va traduire le référentiel d'éco-conception de services numériques en anglais, on va traduire le guide de bonne pratique pour justement les pousser à nos homologues européens. C'est un travail de longue haleine, hein, mais on espère des résultats. Voilà, on sème des graines et la récolte, elle est dans quelques années, quoi. De ce que je constate, on est beaucoup en France, notamment aussi grâce à l'écosystème, hein, Eco-Info, Shift Project, Institut du numérique responsable, le collectif Green IT, etc. Voilà, il y a tout un écosystème en France, et j'espère n'avoir oublié personne, qui produit pas mal de choses et qui fait aussi finalement un travail positif de lobbying aussi à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne.
Et sinon, il y a une résolution du Parlement européen adoptée le 25 novembre 2020 qui souhaite que l'Europe aille vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs. Et il y a aussi le Green Deal, le pacte vert, mais là, il s'agit plutôt d'IT for Green, c'est-à-dire de digitalisation au service de l'environnement. Et ça, ce n'est pas forcément une démarche sobre, puisqu'on ne connaît pas les impacts positifs du numérique.
Tout à l'heure aussi, il y avait une question sur les freins, les contraintes, de pourquoi on ne développe pas plus. Et pour rejoindre notre sujet sur l'échelle européenne, l'échelle internationale, il y a un gros sujet, c'est l'obsolescence induite par les systèmes d'exploitation, qu'on peut nommer, hein. Il n'y en a pas des masses, hein. C'est Microsoft avec Windows, Apple avec iOS et Google avec Android, qui créent énormément d'obsolescence des équipements, hein. On remplace... Les matériels, les terminaux, parce que ça rame, parce que c'est plus compatible avec les nouvelles versions, et alors qu'on pourrait les faire durer très très longtemps. Donc je pense, mais ça c'est à titre personnel, mais qu'il faut à la fois développer les logiciels libres, les systèmes d'exploitation libres, et quand je dis développer, c'est aussi que la puissance publique les impose en fait. Voilà, moi je souhaite vraiment que voilà, dans les administrations, les collectivités, limite qu'il y ait voilà, une démarche très très volontariste de mettre du logiciel libre, du système d'exploitation libre pour qu'on utilise nos ordinateurs 10 ans en fait. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand on ne peut pas changer, voilà, faut qu'on lutte contre ces logiques d'obsolescence programmée. On ne peut pas se dire que le système d'exploitation Android n'est maintenu que 2 ans. Ce n'est pas possible. Hein. Pour un smartphone qui est censé, on peut l'utiliser pendant 5 ans, ce n'est pas possible que le système d'exploitation ne dure que 2 ou 3 ans. Du coup, en fait, on relie, on couple le matériel à l'obsolescence du logiciel. Et puis, d'imposer à ces éditeurs de bien veiller à ne pas créer cette obsolescence, de proposer des mises à jour pendant toute la durée de vie, pendant très longtemps. D'ailleurs, je crois qu'en Allemagne, il y avait une volonté d'imposer aux éditeurs des mises à jour pendant 7 ans. Donc aujourd'hui, on a l'impression que 7 ans, c'est énorme. Mais à l'échelle d'un ordinateur et d'un smartphone, c'est tout à fait possible, en fait. On a l'impression qu'on ne peut pas faire durer un téléphone 7 ans.
Et sinon, donc, quels sont les rendez-vous à venir ou les prochaines actions qui arrivent ?
Oui, moi je pensais à l'AFNOR Spec. C'est une spécification, donc c'est un livrable qui est élaboré collectivement avec des participants sous la responsabilité de l'AFNOR. Et d'ailleurs, Richard y participe. Et donc, la volonté de l'AFNOR, c'est de porter cette spécification donc, qui concerne l'éco-conception au niveau international, afin d'homogénéiser donc les pratiques en termes d'éco-conception. Par contre, c'est une mesure non contraignante, encore une fois, il faut une adhésion volontaire. Donc tant que ce n'est pas une loi contraignante avec des sanctions, c'est plus difficile de faire bouger les gens.
L'AFNOR Spec, comme le référentiel général d'éco-conception de services numériques, on est dans une phase plutôt de poser des cadres, de sensibiliser les acteurs sur ces sujets, de les mettre en œuvre de façon volontariste. Donc pas, on n'est pas dans une phase où on met des contraintes. Si on met des contraintes trop tôt, il y aura forcément des frictions et peut-être même du rejet. Donc on est plutôt dans une phase vraiment de former les gens sur ces sujets-là et qu'ils les mettent en œuvre et aussi éviter tous les aspects de greenwashing, en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent là-dedans de façon militante, engagée, mais d'autres qui cherchent un peu les aspects business, à beaucoup communiquer, à faire de la RSE pour donner une bonne image de leur entreprise, surtout lorsque l'entreprise, ses activités sont très très polluantes. Je ne sais pas, ça peut être des compagnies aériennes qui vont dire j'éco-consomme mon site web ou qui plantent des arbres, donc ça c'est un peu ridicule. Mais non, mais globalement, voilà, c'est de former les gens sur ces sujets-là et qui est plutôt une démarche vraiment vertueuse et pas une démarche de communication.
Donc, si on veut vraiment faire en sorte que tout le monde s'oriente vers une démarche d'éco-responsabilité et même à un niveau plus large, si tout le monde veut rendre le numérique responsable, il faut d'abord se former, s'informer, petit à petit essayer d'enclencher une démarche vertueuse.
Oui, effectivement, il faut beaucoup se former, il faut beaucoup renoncer, refuser les choses inutiles, à la fois ça peut être les équipements inutiles, ça peut être les fonctionnalités, les usages inutiles. C'est aussi parfois jusqu'au bout, c'est peut-être aussi changer de boulot pour des gestes individuels au-delà d'allonger la durée de vie des équipements, au-delà de modérer ses usages Internet, etc. C'est aussi se poser la question de la rémunération. Est-ce que je fais un travail où je suis très très bien rémunéré, du coup je génère de la pollution par ailleurs à cause de mon mode de vie, de mes consommations, et je peux m'acheter la dernière tablette, je peux m'acheter le dernier smartphone et je peux faire des week-ends à New York. Moi je vous invite vraiment à vous poser cette question-là, et peut-être qu'on a cette chance-là dans le numérique à être très très bien payé, donc pour certains, je ne dis pas c'est pour tout le monde. En tout cas, on vit dans un pays riche, donc regardons aussi ce qu'on a dans le porte-monnaie et ce dont on a besoin juste pour vivre et limiter l'impact globalement sur la planète du fait de nos modes de vie.
Puis voyons voir ce qu'on peut faire de positif avec ce qu'on a en trop dans le porte-monnaie, on va dire, à ce moment-là.
Exactement. Donner à des associations qui luttent sur le numérique, j'invite à donner à Halt à l'obsolescence programmée, à Framasoft, à toutes ces associations qui en ont besoin.
Oui, tout à fait. Tout ça, ça doit s'inscrire dans une démarche globale. Mais il faut aussi faire attention aux effets rebonds, parce que même la sobriété a des effets rebonds. Parce que les économies qu'on peut faire justement d'un côté en ayant un mode de vie sobre, ça peut entraîner des effets rebonds. Par exemple, si on va voyager, prendre le temps qu'on a en plus pour voyager, l'argent qu'on a en plus pour voyager, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment effectivement une transformation de son mode de vie global, hein, et pas seulement numérique.
Merci d'avoir participé à ce podcast. C'était un super échange, une super discussion.
Merci à vous.
Merci à toi. Enfin, à vous, à l'hippocampe.
On le voit, la France est plutôt pionnière pour ce qui est des lois encadrant le numérique. Cela dit, ça ne fait pas de nous des acteurs et actrices exemplaires pour autant. Il y a encore de la marge avant de construire un numérique le plus responsable possible en France et dans le monde. Mais on se rend quand même compte que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. D'ailleurs, des obligations légales vont arriver très prochainement pour les entreprises. Il va donc falloir s'y mettre. Heureusement, les bonnes actions ne manquent pas. Elles feront l'objet des deux épisodes suivants où l'on abordera nos usages et nos services numériques avec des solutions concrètes à mettre en place, que ce soit au niveau individuel ou professionnel. D'ici là, on vous invite à approfondir vos recherches auprès des organismes cités dans ce podcast et pourquoi pas les soutenir si le cœur vous en dit. À très vite dans le prochain épisode. Merci beaucoup.
Cette série de podcasts fait partie du projet éthique de l'agence Hippocampe. Notre mission, rendre le web et l'entreprise plus éthiques. Nos trois objectifs, rendre nos pratiques encore plus humaines, renforcer notre sensibilité écologique et opter pour une gouvernance transparente. Chaque trimestre, on s'intéresse donc à un objectif et une initiative qu'on veut mettre en place pour y répondre. Retrouvez toutes nos initiatives sur notre blog Ebullition, un outil pour la croissance numérique éthique des entreprises.